Héloïse, donc, qui nous rejoint.
Bonjour.
Salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter déjà d'une manière assez courte, nous parler de ton travail, de cette pièce qui est mise en œuvre et qui a été découverte récemment par le public?
En janvier à Château-Vallon, tu l'as présentée. Voilà.
Voilà, c'est ça. Il y a quelques semaines à Château-Vallon, et donc c'est un spectacle qui s'appelle L'Émeute, en deux mots, comme l'émeute de loups. Et donc moi, je suis Louise Mercier, je suis auteure, metteur en scène et comédienne au sein de la compagnie Microscopique. Donc je fabrique des spectacles, entre autres. C'est le deuxième spectacle de la compagnie Microscopique. Le premier, on l'avait également créé à Château-Vallon en 2020, je crois, qui s'appelait Une goutte d'eau dans un nuage. Et un petit peu la marque de fabrique de la compagnie et de notre travail, c'est de faire un travail qui mêle le texte et le son. Voilà, donc des spectacles assez immersifs, assez poétiques aussi.
Et là, tu as choisi donc la pièce nous amène avec un personnage qui s'appelle Lou et
Oui.
autour des loups. Et tu as choisi la forme du conte. Le conte, c'est quand même un peu le monde de l'imaginaire, des fantasmes, des peurs aussi. C'est bien pour aborder le thème du couple et de l'amour, peut-être. Non, je ne sais pas. Pourquoi ce choix du conte?
Alors, enfin, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est au tout début du travail autour de ce spectacle, donc parce que j'ai mis du temps à l'écrire celui-ci, et la première lecture que j'ai faite en commençant à réfléchir à cette thématique qui au début n'était pas centrée sur le couple, mais était plutôt centrée sur peut-être la famille, ce dont on hérite chacun. Et je m'intéressais aux lignées de femmes. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Voilà. Et finalement, c'est le premier livre que j'ai lu en commençant cette écriture. Et je me rends compte, une fois que ce spectacle est achevé, que il m'a accompagnée tout le long du spectacle. Donc, parler des loups, c'était aussi voilà une manière de je sais plus la question originelle. Ah oui, le conte,
Le
voilà.
conte.
Ah voilà, c'est ça. Et dans ce texte de Femmes qui courent avec les loups, il y a à un moment donné, elle parle de plusieurs contes, de plusieurs cultures différentes, et notamment un qui commence par une tradition orale qui commence par il était une fois et il n'était pas. Et ça, ces deux phrases m'ont vraiment marqué parce qu'on connaît tous le il était une fois de quand on était petit, des histoires qu'on raconte aux enfants, mais le et il n'était pas, il vient ajouter une dimension supplémentaire. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait, de réfléchir à est-ce qu'une histoire s'est vraiment passée comme ça? Finalement, tout ce qu'on nous raconte, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Et toutes les personnes qui ont vécu cet événement l'ont-ils vécu de la même manière? Voilà, donc le
Dans une
conte,
histoire de couple, en
dans une
plus,
histoire de
on
couple.
voit que chacun ne se raconte pas la même histoire au final.
La part de projection, voilà, de l'un, de l'autre, ce que chacun va mettre dans un amour qui est commun, mais qui finalement est différent pour l'un et pour l'autre. C'est un peu ça l'idée.
Oui, exactement. La multiplicité des points de vue. Et dans le spectacle, c'est un conte, mais c'est un conte qui est un petit peu inquiétant quand même, qui va se transformer quand même en quelque chose de plus. Pas un film d'horreur, mais pas loin quand
Thriller.
même, un thriller, voilà.
Le jeu de mots est important aussi, l'émeute est...
Alors forcément, j'y ai pensé. En un sens, oui. En un sens, oui, parce que ce qui se passe pour chacun des personnages, au bout d'un moment, ça, il y a un des chapitres qui s'appelle foyer, et pareil, le double sens de foyer m'intéressait parce que c'est foyer, c'est le foyer dans lequel on se retrouve, dans lequel on va construire sa famille, son foyer, mais c'est aussi le foyer d'un incendie. C'est que tout à coup, quelque chose s'allume et va s'embraser en fait. Donc l'émeute, c'est effectivement. Alors, j'insiste pas trop dessus, mais effectivement, on pourrait aussi l'entendre dans ce sens-là, à savoir qu'il y a une émeute intérieure, voilà, qui va s'enclencher pour le personnage principal, qui est celui de Lou, mais aussi pour chacun des personnages.
Et alors, il y a aussi la question du choix. Il y a cette phrase qu'on entend dans l'émeute, car parfois, il arrive que l'on construise sa vie sur un malentendu.
Ça, c'est peut-être la phrase la plus importante du spectacle. C'est justement, ça questionne toutes ces projections dont tu parlais. Comment peut-être dans un couple, au début, on peut se rencontrer, se raconter des histoires, se présenter sous son meilleur jour, et petit à petit, on peut se rendre compte qu'on n'est pas exactement au même endroit, en fait. Qu'il y a des choses sur lesquelles on pensait s'entendre, et puis bah, finalement, on ne s'entend pas tant que ça. On peut aussi se faire rattraper chacun par là d'où on vient, une tradition, un entourage, d'où l'émeute, peut-être une pression familiale aussi, ou une pression de la société, des injonctions qui sont faites par le groupe, des attentes, alors beaucoup par rapport aux femmes, mais aussi par rapport aux hommes. Voilà,
un élément perturbateur tel qu'un enfant peut-être aussi.
Un élément perturbateur, oui, on peut appeler ça comme ça. Mais oui, voilà, des choses tout à fait. Le déroulé classique d'un couple, on va se marier, on va avoir des enfants, bon, bah, comme dans les contes.
Ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants. Et on ne sait pas ce qui se passe après, une fois qu'ils ont les enfants. On ne raconte pas dans les contes.
Voilà, c'est ça. Et ben, c'est toutes ces choses-là qui peut-être... c'est de réfléchir à l'après du conte, de comment ça se passe dans le concret, dans la réalité du quotidien. Et est-ce que les choses sont toujours aussi roses que ça? Est-ce que les personnages sont toujours aussi pimpants qu'on nous les avait présentés? Donc cette phrase de « car parfois il arrive que l'on construise sa vie sur un malentendu », elle est au début du spectacle, mais elle annonce ce qui va se passer pour la suite.
Et donc quand on pense à meute, on pense aussi à l'appartenance à un groupe ou à l'exclusion du groupe. Le groupe familial, le groupe de la belle famille aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pièce?
Oui, alors dans le spectacle, effectivement, l'émeute, ça représente plusieurs choses, mais notamment la famille de lui, parce que donc il y a deux personnages dans le spectacle, il y a Lou et il y a lui, qui vont tomber amoureux, qui vont rêver d'aventure et dont le couple va petit à petit se resserrer, se tendre, parce que la famille, la belle famille, va mettre un petit peu une pression. Parce que cet individu, ce nouvel élément de Lou, ne va pas correspondre exactement à ce qu'ils avaient imaginé. Voilà, elle est un peu différente, elle est un peu plus libre peut-être, ou un petit peu, elle dénote un petit peu dans le paysage. Elle n'est pas comme eux, elle n'est pas comme eux en fait. Et c'est là où ça m'intéressait aussi de comparer, qu'on ne sache pas très bien si les personnages étaient des hommes ou des animaux, parce que cette notion de ne pas être comme nous, ça renvoie aussi à quelque chose de très primaire, hein, de bah, on n'a pas la même odeur, on n'appartient pas à la même espèce, au même clan, des choses finalement de territoire, de marquage très animal. Et c'était en ça que cette notion d'animalité m'intéressait aussi. D'ailleurs, dans les contes pour enfants, ou dans les histoires pour les enfants, souvent, le héros ou l'héroïne va être perdu dans la forêt et tomber sur des animaux. Et il va se retrouver, je ne sais pas, à prendre le thé avec un ours, un cerf, une biche. Et ça pourrait peut-être un petit peu être une métaphore aussi, en fait, de bah, nous, dans la société, on va rencontrer des gens qui ne font pas partie de notre famille, qui sont différents, qu'on ne connaît pas, qui vont peut-être nous faire peur ou qui ont d'autres coutumes ou d'autres façons de parler. En fait, on est tous un petit peu des animaux. Et quand on se rencontre, on se jauge un petit peu tous parce que bah, on ne se connaît pas, en fait. On n'est pas de la même...
On se dit, je peux pas le sentir.
Exactement.
C'est un instinct.
Ouais.
Après, tu as peut-être cette dimension, justement, si tu apportes une part de conte, ça peut être la projection amoureuse que l'on a au début, qui est merveilleuse, qui est extraordinaire. Et puis le conte, finalement... laisse place à la réalité à un moment donné. Il y a peut-être aussi cette démarche-là.
Oui, et d'ailleurs, dans la construction, dans la mise en scène du spectacle, c'était une vraie volonté. En fait, on rentre petit à petit dans l'histoire. Le spectacle est construit un peu avec plusieurs... Il y a trois épisodes, et j'avais envie de construire ça un peu comme une série Netflix. À la fin de chaque épisode, faire un peu un cliffhanger où on a envie de savoir la suite. Et alors, c'est une histoire où on ne sait pas très bien à quelle époque on est ni où on est. Mais petit à petit, dans la mise en scène, on passe de quelque chose de très épuré, presque symbolique, à quelque chose de... On va rentrer de plus en plus dans quelque chose de réaliste. Jusqu'à... Donc, on commence par le conte et on finit avec des écrans de smartphone et des choses qui se passent en story retranscrites sur un écran. Donc, dans quelque chose de très contemporain et de très moderne, en fait. Donc, effectivement, ça aussi, c'était une volonté de partir de l'imaginaire et d'arriver à quelque chose de très concret. Et en fait, il y a différentes strates dans cette histoire. Et d'ailleurs, à la fin, on m'a dit « Ah, mais il y a plusieurs fins dans ton spectacle. » Mais c'est, pour moi, c'est comme ça. C'est écrit, enfin, c'est nécessaire parce qu'il faut refermer toutes les strates du récit. Il y a la strate des... Le tout début, c'est des narrateurs qui viennent nous raconter une histoire et ces narrateurs deviennent petit à petit les personnages. Donc voilà, Enfin, au-delà du conte et au-delà de cette histoire d'amour et de couple, c'est le récit dont je voulais parler aussi. Comment on fait récit ? Parce que on raconte des histoires, donc on raconte des histoires aux enfants, mais on se raconte aussi des histoires à nous-mêmes. On se raconte des histoires de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Quand on se met en couple, il y a toujours une histoire. On se raconte une histoire de comment on s'est rencontrés.
On parle du mythe du couple. Ouais.
Voilà.
Construit.
C'est ça. En général, il y a un élément très fort qui symbolise la constitution même du couple, quoi, ce sur quoi il s'est formé, ce sur quoi on s'est retrouvé, ce sur quoi on s'est entendu, et qui peut être aussi un élément qui va permettre peut-être de se retrouver à des moments où on se perd, qui est comme un référentiel commun. Donc ce récit-là, le récit qu'on nous raconte de nous-mêmes aussi, que notre famille nous raconte génération après génération, dans cette histoire, il se trouve que le personnage de Lou a un héritage familial dont elle hérite, mais pour chacun d'entre nous, en fait, on va hériter de quelque chose, et des attentes aussi peut-être qu'on place en nous, mais c'est aussi un récit collectif de société, en fait. La place de la femme dans la société, ça aussi, c'est un récit collectif. Donc voilà, cette notion de récit, elle me questionnait aussi.
Elle était présente, quoi.
Oui, ouais, tout à fait.
Et pour en rendre compte, c'est notamment avec une mise en scène. Comment est présenté ce spectacle ? J'ai vu aussi que tu as travaillé avec des musiciens pour lui donner du corps aussi, davantage.
Alors ça, oui, c'est... Alors, justement, on parle du couple. Moi, je travaille en couple aussi dans l'élaboration des spectacles qu'on fait, parce qu'on travaille donc avec Vincent Béranger, qui fait la musique. Et dans notre travail, le texte et le son se construisent un petit peu en même temps et en parallèle. Et on avance ensemble là-dessus. Donc, la musique est vraiment partie intégrante de la création du spectacle.
Quand tu parlais d'une série, tu as cette dimension cinématographique, alors qu'il se rajoute, la musique, c'est vraiment un guide dans ce spectacle.
Alors, dans celui-là, peut-être encore plus, parce qu'en plus, on a voulu jouer avec les codes de la série, du blockbuster américain. Enfin, il y a des musiques qui sont épiques. Qui nous entraînent dans l'histoire. C'est une espèce de cavalcade.
On va en entendre un morceau tout à l'heure.
Voilà, c'est une espèce de cavalcade et les personnages sont embarqués dans cette histoire comme on peut être embarqué dans sa vie, en fait, sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe, mais on est embarqué. Et c'est seulement après coup qu'on se dit « Ah, mais ça m'a emmené ici ».
Et voilà. Comme dans la vie d'un couple, quoi.
Comme dans la vie d'un couple.
Et tout à l'heure, tu parlais de la fin. Donc, la fin des contes, ça se termine par trois petits points. Donc, on ne sait pas ce qui se passe après. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Toi, tu finis ton conte. Donc, c'est une boucle. C'est-à-dire que tu clôtures vraiment l'histoire, mais tu finis en ouvrant la porte vers une autre histoire. On a l'impression que c'est comme un peu le mythe de Sisyphe, un truc qui ne s'arrête jamais, où une histoire de couple enfin, amène à une fin et à un recommencement, mais avec un côté presque un peu... j'allais dire presque un peu laborieux, mais non, je sais pas.
Alors, j'aurais pas dit laborieux.
Comme une condamnation pour vouloir, un amour idéal, quoi, quelque chose comme ça.
C'est rigolo. Moi, je n'ai pas du tout.
Comme Sisyphe, quoi. T'as voulu croire en l'amour, et ben tu vas relever ta pierre comme ça indéfiniment.
Non, mais ça peut être tout à fait une interprétation. Alors, je trouve que je l'ai pas pensé comme ça. Je l'ai plutôt pensé comme. Alors, c'est pas l'histoire dont vous êtes le héros. Mais plutôt comme si un jeu, en fait. Un jeu, parce que les deux narrateurs du début, on les retrouve à la fin, et ils vont relancer l'histoire en disant « Bon, allez, on se la refait, mais différemment. On change quelques éléments et on voit comment ça se passe si on change ça et ça. » Et à la fin du spectacle, il y a un nouvel « Il était une fois » qui recommence. Mais je l'ai... je l'avais pas envisagé comme bon, allez,
on remet ça,
mais comme bon, bah, on n'a toujours pas trouvé, on y retourne, mais c'est plutôt comme allez, on s'amuse. Et si on disait que finalement, à tel moment, elle avait pris telle décision et pas celle-ci, comme oui, les livres de l'histoire dont vous êtes le héros quand on est petit, et qu'on dit on choisit ce chemin-là et on va à la page 12, ou ce chemin-là et on va à la page 37. Bah, là, bah, finalement, on choisit l'autre option. Et qu'est-ce que ça donne si on avait fait à ce moment-là un autre choix ?
On en revient au malentendu.
On en revient au malentendu, ouais.
Il y a peut-être un symbole aussi, le loup, parce qu'en général, dans le conte, c'est le méchant, c'est celui... donc là, peut-être qu'il prend une autre place dans ton conte personnel.
Alors, c'était ce double personnage qui à la fois peut faire peur et à la fois attire parce qu'il est libre.
Bien sûr. Ouais.
Donc oui, au long de la pièce... On oscille entre ces différentes interprétations de quelque chose qui inquiète et quelque chose qui attire.
Tu te sens un loup en toi aussi.
Je pense que chacun peut se sentir. Enfin, chacun a son loup en soi. En fait, c'est l'émeute et le loup, c'est qu'est-ce qui hurle à l'intérieur de chacun. Et aussi, qu'est-ce qui hurle à l'extérieur. Alors, ça, c'est plus la meute. Voilà. Qu'est-ce qui hurle à l'extérieur et qu'est-ce qui hurle à l'intérieur de chacun.
On peut écouter alors un extrait musical de cette composition.
Oui, je crois qu'on y entend un loup d'ailleurs.
Tout à fait.
Cette composition, oui, elle est de Vincent Béranger, tu en parlais tout à l'heure. L'arrangement et la production de Charlie Morin, donc ça fait retrouver un duo que l'on connaît bien à Toulon, de Vincent Béranger et Charlie Morin sous Bleu Canyon. Et puis on y retrouve Martin Baudu au violoncelle.
Oui.
Et donc un loup aussi.